RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où la performance ne se mesure pas seulement en chiffre d'affaires, mais aussi en nombre de pompes. Oui, vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler du mariage assez peu académique, je vous le concède, entre le sport et l'entreprise. Vous pensiez peut-être que ces deux mondes étaient aussi éloignés que le pôle Nord ne l'est du pôle Sud. Eh bien, détrompez-vous, ils forment en réalité un véritable duo de choc. Imaginez votre entreprise où les places de parking sont transformées en lignes de terrain de basket ou de volley, où les brainstorming se déroulent en marchant sur des tapis roulants. Un peu de folie ? Je ne suis pas si sûr. Les entreprises l'ont bien compris, intégrer le sport dans leur quotidien n'est pas juste une tendance, cela peut être un levier de stratégie, c'est peut-être même une révolution qui est en marche. Euro, JO, Coupe du monde de rugby nous rappellent combien le sport peut rassembler, inspirer, transcender les barrières. Les valeurs universelles du sport, telles que la discipline, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, sont parfaitement superposables aux valeurs et besoins de l'entreprise, avec peut-être des finalités différentes. Alors, comment le sport peut-il transformer la vie d'une entreprise, des dirigeants aux employés? Quels sont les bénéfices réels au-delà des slogans marketing? Comment le sport peut-il réduire l'absentéisme, booster la productivité et l'attractivité des métiers? Et même, pourquoi pas, sauver des vies. Alors je vous invite à écouter cette émission qui n'est pas juste faite pour les fanatiques de la salle de gym, mais bien pour tous les fanatiques d'une stratégie gagnante pour tous. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions cette semaine. Vous l'avez compris, on va parler de sport et de sport dans le monde de l'entreprise. Et avec mes deux invités qui sont avec moi en studio, je vous les présente tout de suite. On va essayer de comprendre en quoi le sport peut apporter ou pas apporter, mais surtout comprendre pourquoi le sport et l'entreprise peuvent être liés les uns aux autres. Et ils sont là, je vous les présente, Claire Guillaumin. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes chargée de développement à la Ligue de sport en entreprise des Pays de la Loire. On va évoquer avec vous cette ligue que j'ai découverte en même temps que je préparais cette émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis en face de moi, Dominique Maguère, qui est président de la commission sport-entreprise du MEDEF de Loire-Atlantique. Bonjour Dominique.
Bonjour Patrick.
Et on essaiera de comprendre avec vous pourquoi le MEDEF s'intéresse à la question du sport dans l'entreprise. On creusera tout ça avec vous d'ici une petite vingtaine de minutes. On retrouvera à la fin de cette émission nos 7 minutes pour changer le monde avec Asma Zeyan, qui est la cofondatrice à Nantes, la développeuse à Nantes d'une association qui s'appelle Sport dans la ville. On verra avec elle de quoi il retourne. Et puis bien sûr, on retrouvera Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on commence tout de suite avec Sylvain Bersinger, qui est chef du service économique d'Asterès. Avec lui, on va évoquer la question des projets économiques du RN et de la NFP.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, et mon invité, quand je vous le présentais à l'instant, il s'agit de Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci beaucoup. Donc vous travaillez au cabinet Asterès, qui est un cabinet d'études, de recherche, de conseil en économie. Et avec vous, Sylvain, on va essayer de comprendre ces programmes économiques portés par le NFP, le Nouveau Front Populaire, et le Rassemblement National, pour essayer d'éclairer nos auditeurs ce sur quoi on pourrait s'attendre en termes de budget, en termes de réformes économiques. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces deux programmes, Sylvain ? Est-ce qu'ils sont finalement assez proches ?
Ben oui, déjà, moi, ce qui me surprend, quoi surprend, c'est pas le mot, mais c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui sont communes, et je dirais même une philosophie commune. C'est-à-dire que déjà, au RN comme au NFP, il y a une hostilité, on va dire, au sens large, à la mondialisation. Donc, tout ce qui est commerce international, construction européenne, il y a globalement une vision assez protectionniste de l'économie. Donc, c'est la préférence nationale, par exemple au RN, où l'État passerait directement des commandes aux PME françaises plutôt que des appels d'offres internationaux, revenir sur les traités de libre-échange ou globalement les traités commerciaux. Et on retrouve un peu les mêmes idées, les mêmes, je dirais, pulsions protectionnistes au NFP. Mmh. Donc, dans les deux cas, il y a une vision un peu autarcique de l'économie, même si ces programmes ne feraient pas de la France la Corée du Nord, mais enfin, il y a une vision d'une économie qui doit se protéger de la concurrence internationale par des barrières tarifaires, réglementaires diverses et variées. Et un autre grand point commun de ces deux programmes, c'est une stimulation de l'économie basée sur la dépense publique. Mmh. C'est deux programmes très dépensiers pour l'État, donc soit des hausses de dépenses, soit des baisses d'impôts, hein, ça peut dépendre un petit peu selon les cas, mais globalement, l'État est beaucoup mis à contribution, avec beaucoup de dépenses, de baisses d'impôts et des recettes beaucoup plus faibles. Donc à mon avis, dans les deux cas, un très gros creusement du déficit, même si c'est très difficile à chiffrer précisément, parce que beaucoup de mesures sont un peu floues. Le RN avait dit, bon, là, par exemple, abroger la réforme des retraites, est-ce qu'on revient à 60 ans, est-ce qu'on revient à 62 ans? On voit bien qu'il y a du tâtonnement aussi dans ces parties, donc c'est très dur de chiffrer précisément, mais on voit des programmes très dépensiers pour l'État, et ça, c'est un gros point commun dans les deux cas, en fait.
Alors, si on reprend, il est difficile de comparer, mais on peut peut-être éventuellement comparer le programme, on va dire, de la NUPES, le programme économique, lors des dernières législatives, le programme de Marine Le Pen en 2022. Est-ce que ces trois années qui viennent de passer ont vu évoluer les propositions, ou est-ce que l'on reste sur quand même un fil commun ?
Je dirais à la NUPES, maintenant NFP, les grandes lignes sont à peu près les mêmes. Il y a peut-être eu un peu d'édulcoration. Par exemple, en 2022, il y avait l'idée d'abroger une partie de la dette publique, que j'ai jamais compris d'ailleurs. J'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire clairement, parce qu'il disait, en gros, il disait, on ne va pas rembourser une partie de la dette, mais on ne fera pas défaut. Donc, on ne peut pas aller simultanément à gauche et à droite. Si vous voulez, à un moment, il faut faire des choix. Cette partie-là ne se retrouve pas dans le programme. Donc, je dirais que le programme du NFP, c'est le programme de la NUPES avec quelques petites édulcorations, mais la philosophie globale reste la même, c'est-à-dire une hostilité à la mondialisation et dépenses publiques élevées, financées pour une petite partie par des hausses d'impôts sur les riches, mais pour une petite partie seulement. Et au RN, à ma connaissance, on n'a pas de nouveaux programmes économiques assez détaillés, comme il y en avait eu un, en tout cas des grandes lignes, comme il y en avait eu un pour Marine Le Pen en 2022. Donc, en fait, on se base un petit peu sur ce programme de 2022, sur des déclarations qu'il y a pu avoir. Marine Le Pen avait fait une tribune dans Les Échos, par exemple, ou ce qu'on peut dire les cadres du parti, pour essayer de voir ce qu'est la philosophie du programme. Globalement, la philosophie, je dirais, est un petit peu la même, c'est-à-dire donc beaucoup de dépenses publiques. Donc on promet l'argent pour l'école, l'hôpital, la police, enfin tous les services publics, des baisses d'impôts, notamment des baisses de TVA, et tout ça qui est censé être financé par une baisse des aides et des allocations aux immigrés, dont le parti attend des gains pour les finances publiques, à mon avis, totalement surestimés.
Est-ce que ça veut dire, Sylvain, que on est face à des programmes économiques qui sont assez irréalistes et irréalisables, étant donné que déjà on nous annonçait il y a quelques mois, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous annonçait 10 milliards d'économies à faire. Est-ce que c'est irréaliste? Enfin, je veux dire, est-ce que ces programmes économiques, au-delà, j'ai envie de dire, de faire le buzz auprès des électeurs potentiels des deux camps, est réaliste et réalisable?
Alors, dans leur version brute, je dirais, si on prend vraiment ligne par ligne le programme du NFP et ligne par ligne, grosso modo, le programme de Marine Le Pen en 2022, et qu'on se dise que c'est plus ou moins la même chose, je pense qu'ils sont juste pas réalistes, s'il n'y a aucune édulcoration. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les prêteurs de la France. Puisque suite à la dissolution, on a bien vu dans les sondages que le RN et la gauche dès qu'elle s'est unie derrière la bannière du NFP sont assez hauts, hein, et la majorité présidentielle plutôt en difficulté dans les sondages. Donc ces deux programmes qui semblent être ceux qui pourraient être portés par le prochain gouvernement, on a vu déjà les taux sur la dette française augmenter dès les premiers jours après l'annonce de la dissolution. Donc ça veut dire que les créanciers de la France, qu'ils soient français ou internationaux, peu importe, déjà doutent de ces programmes avant même qu'ils soient mis en œuvre. Donc la simple perspective que ces programmes puissent être appliqués a créé, je ne vais pas dire une panique, ce serait exagéré, mais un début de frémissement auprès des créanciers de la France qui se disent « mais est-ce que ce pays va être géré sainement ?» Donc, s'ils étaient appliqués tels quels, mon pronostic central, c'est très difficile de faire des, d'avoir des certitudes dans, dans le contexte assez mouvementé actuel, c'est que ça ferait un petit peu comme ce qui s'est passé au Royaume-Uni à l'automne 2022 avec la première ministre Liz Truss à l'époque, qui avait annoncé 45 milliards d'euros de baisse d'impôts, baisse d'impôts sur le revenu notamment, et ça avait créé une petite panique sur les marchés financiers, donc sur la livre, et sur la dette publique anglaise. Les investisseurs s'étaient détournés de la livre et de la dette publique anglaise parce qu'ils ne comprenaient pas ces baisses d'impôts qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe, qui étaient très importantes, pas du tout financées. Et donc, la première ministre avait été obligée de faire machine arrière parce que quand plus personne veut, quoi, plus personne, en tout cas, moins en moins d'investisseurs veulent prêter à l'État et que vous payez de plus en plus cher sur votre dette, bah, arrive un moment où vous êtes obligé de faire machine arrière. Ou alors vous allez au défaut et au clash et c'est encore pire. Donc, je pense que c'est pas applicable et on l'a vu ces derniers jours, en fait, que les créanciers de la France ne sont pas prêts à suivre un gouvernement sur ce type de programme-là.
Et puis on voit aussi les investissements et les investisseurs. Hein, aujourd'hui, tout est en stand-by. On voit aussi quelques économistes, et je pense à Esther Duflo, prix Nobel d'économie, venir soutenir des programmes comme celui du NFP. Ça veut dire quoi quand des économistes, et on pense aussi à Thomas Piketty, on en voit peut-être moins d'ailleurs au Rassemblement National, d'économistes venant soutenir leur projet économique, mais quand des économistes de cet acabit, de ce niveau, prennent position, ça veut dire quoi? Vous nous dites que c'est irréaliste et pas réalisable, et en même temps des économistes de renommée internationale, prix Nobel de la paix, viennent soutenir un programme comme celui du NFP.
Alors, plusieurs choses. Déjà, je ne connais pas personnellement Thomas Piketty et Esther Duflo, donc je n'ai pas discuté avec eux en détail de leur vision de ce programme. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, sur à peu près tous les sujets, vous trouverez des grosses pointures qui soutiennent les idées même les plus farfelues. Vous avez des prix Nobel scientifiques qui vous expliquent que le réchauffement climatique n'existe pas, que les vaccins du Covid allaient tuer tout le monde, il y a des prix Nobel de médecine qui soutenaient ça, etc. Donc, c'est pas avoir un prix Nobel ne veut pas dire qu'on a forcément raison sur tout, et vous trouverez toujours des prix Nobel ou des gens avec des très beaux CV soutenir tout n'importe quoi, même s'ils sont très minoritaires. Après, est-ce que Esther Duflo ou Thomas Piketty soutiennent et sont d'accord avec chacune, une à une de ces mesures, ou est-ce qu'ils veulent mettre leur poids médiatique et symbolique dans la balance pour essayer d'aider la gauche, tout en se disant bien que bon, s'ils arrivent au pouvoir, on sait très bien qu'ils n'appliqueront pas telle et telle mesure qui sont un peu farfelues. Enfin, on a un programme au NFP où on nous dit on va augmenter très fortement les salaires et on va bloquer les prix. Enfin, moi je veux bien, mais si vous voulez pas que les prix augmentent, la base c'est de ne pas mener des politiques inflationnistes. Si vous augmentez les salaires, bah, vous augmentez les coûts, donc vous augmentez les prix. Donc si vous mettez des mesures qui augmentent, qui poussent à l'inflation, alors que vous voulez bloquer les prix, en tout cas sur les biens alimentaires et énergétiques, enfin, c'est complètement contradictoire. Ma supposition, mais c'est qu'une supposition, c'est que quelqu'un comme Esther Duflo est bien conscient de ces petites contradictions, mais son soutien ne veut pas forcément dire qu'elle soutient chacune des mesures.
C'est ça. Elle soutient plutôt
à la gauche française de manière générale, une tendance politique. Elle soutient la hausse de la fiscalité sur les plus riches. Enfin, pourquoi pas?
Alors, que faut-il penser du programme économique de Renaissance, Sylvain Berzinger?
Il y a quelques mesures ici ou là pour montrer qu'il y a des actes en faveur du pouvoir d'achat, mais c'est un programme très, très terne et très timoré. Il n'y a pas de grandes réformes, il n'y a pas de grandes envolées. Ce qui, j'ai envie de dire, est presque un petit peu normal, dans le sens où quand Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, toutes ces grandes réformes qu'il avait en tête, il les a faites. Et donc, quand vous êtes au bout de 7 ans de pouvoir, vous avez fait vos principales réformes. Et donc, après, vous gérez un petit peu le quotidien. Et donc, c'est un programme où il y a quelques mesurettes, mais en fait, il n'y a pas de grandes... J'ai presque envie de dire, vaut mieux rien faire que faire des conneries, en fait, hein, si je peux être un peu franc.
Merci beaucoup, Sylvain Berzinger. Qu'est-ce qu'il faut retenir, quand même, pour nos auditeurs sur ces deux programmes, si on veut éclairer un petit peu leur choix?
Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On a des programmes qui nous promettent, d'un claquement de doigts, du pouvoir d'achat pour tous. Ce qu'il faut voir, c'est que le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de consommer. Pour consommer, il faut avoir au préalablement produit. On ne peut consommer que ce qui a été produit. Donc, ce qu'il faudrait que ces programmes nous expliquent, c'est comment ils vont augmenter la production. Parce que donner du pouvoir d'achat à tout le monde, si derrière vous n'augmentez pas la production, ça veut juste dire que vous faites soit de l'inflation, soit du creusement du déficit commercial. Donc, le pouvoir d'achat, c'est avant tout de la capacité à produire plus. On ne peut consommer que ce qui a été produit. Donc, la hausse du pouvoir d'achat ne peut aller durablement qu'avec une hausse de la production. Et donc, il faudrait que ces programmes qui sont très, très prometteurs en termes de pouvoir d'achat nous expliquent comment les entreprises vont faire face et produire plus pour que cette dépense publique très généreuse n'alimente pas soit de l'inflation qui viendra renier le pouvoir d'achat et qui nous ramènera à la situation initiale avec juste plus d'inflation, soit fasse exploser le déficit commercial encore plus que ce qu'il est déjà. Donc voilà, je pense que le Père Noël n'existe pas. Quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut conclure.
Merci beaucoup Sylvain Berzinger d'avoir été notre invité éco. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Asterès, cabinet d'études, recherche, conseil en économie. Nous on retrouve tout de suite Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson.
Et on retrouve Nicolas Masson. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous évoquer, à l'approche des vacances, le temps et plus précisément une sorte de plaidoyer pour une écologie du temps dans les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement, Nicolas ?
Avec l'approche de l'été, il y a beaucoup de fatigue. Et pourtant, dans les entreprises, on continue à parler de réactivité, de vitesse d'exécution. Et c'est nécessaire parce que la vitesse est un des secrets de la performance et c'est essentiel pour que l'entreprise survive. Mais plus on va vite, plus il faudrait aller vite. La vitesse agit comme une drogue dont les entreprises ne savent plus se passer. Pourtant, on perçoit que cette course sans fin a quelque chose de vain. Ne serions-nous pas devenus tous comme des hamsters qui courent pour faire tourner une roue sans avancer ni pouvoir s'arrêter ? La vitesse nous épuise sans nous satisfaire. En effet, nous savons que notre monde est fini, que notre maison commune s'épuise et surtout que dans cette course, nos cœurs, notre capacité à aimer s'épuisent.
Alors, que faut-il faire ? Je dois vous avouer que jusque-là, Nicolas, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à ce constat ?
Nous devons pratiquer une écologie du temps. Le temps, c'est une force qui joue contre nous quand, pour étendre notre pouvoir, nous ne le respectons pas. Le temps est supérieur à l'espace, nous rappelle le pape François dans Evangelium Vitae. L'espace technique ou économique est vaste, la conquête des marchés et l'innovation semblent infinies, l'objectif de toute entreprise serait de s'étendre, de grossir, mais continuer à augmenter l'EBITDA, pourquoi faire ? C'est dans le temps qu'est la réponse. En effet, dans le temps, fluide et insaisissable, les expériences construisent la qualité des liens entre les personnes, les compétences vivent et se développent, nos motivations se renforcent. Chaque instant est une opportunité unique, un fragment de vie où on crée, vit et aime. C'est dans le temps que la vérité se révèle, que les blessures se cicatrisent, que les souvenirs s'embellissent et les erreurs se pardonnent. C'est dans le temps qu'est la vie. L'espace est immense, mais il ne possède pas cette capacité de vie. L'espace est nécessaire pour vivre, mais c'est dans le temps que se trouve cette vie avec ses changements et ses transformations. L'espace est un cadre, une toile vierge où se dessinent les contours de notre vie, mais sans le temps, ces contours restent figés, statiques. Ainsi, le temps façonne notre réalité, bien plus profondément que l'espace.
Alors, cette pédagogie du temps dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle se met en œuvre, Nicolas ?
Quelle que soit la taille de l'espace qu'occupe l'entreprise, ses parts de marché, son chiffre d'affaires, sa marge, c'est la manière dont elle utilise le temps qui fera la différence. Le cadre institutionnel peut y aider. Trois exemples, les critères ESG, en donnant une place à d'autres facteurs que le seul résultat financier, ralentissent les entreprises en élargissant leur champ d'action. Les sociétés à mission vont plus loin en plaçant ces impératifs au cœur de la raison d'être de l'entreprise, rendant ainsi au temps sa valeur. Et les entreprises familiales, en plaçant leur survie dans la durée, vivent également le temps long. Mais c'est aussi une question de volonté et d'état d'esprit. En redonnant à son entreprise le sens du temps long à tous les niveaux de son organisation, le chef d'entreprise redonne toute sa place à la personne humaine, à la construction des relations et au sens de ce qu'elle fait. Si comme entreprise j'ai la volonté de replacer la personne au centre, il est nécessaire que je pratique une écologie du temps.
Merci beaucoup Nicolas Masson pour cette chronique sur le temps. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants avec nos invités pour parler du sport dans la ville, juste après la pause musicale. Et nous, Nicolas, eh bien, on se retrouve à la saison prochaine puisque les vacances arrivent. Merci encore pour toutes ces belles chroniques tout au long de l'année. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier.
I reassure that every day my love is strong and gently placed.
C'était If You Don't Want My Love, interprété par Yalen Gonda sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. On va évoquer la question du sport dans l'entreprise et du sport et de l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit tout à fait la même chose avec mes deux invités. Tout d'abord, Claire Guillaumin, qui est la chargée de développement à la Ligue des Pays de la Loire du sport en entreprise. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et puis en face de moi, Dominique Maguère, qui est président de la commission sport-entreprise du MEDEF 44. Bonjour Dominique.
Bonjour Patrick.
Avec vous, donc, on va essayer d'évoquer cette question du sport et de l'entreprise. Alors, je disais en commençant notre émission que j'avais découvert qu'il y avait une ligue de sport en entreprise. Moi, je pensais, Claire, que tous les sportifs allaient dans leur club à côté de chez eux et qu'il n'y avait pas besoin, a fortiori, d'une ligue pour encadrer le sport dans l'entreprise ?
Alors en fait, la Fédération française du sport d'entreprise fonctionne comme une fédération olympique.
Ouais.
Sauf que là, effectivement, on va être multisport. Et donc le but, ça va être vraiment de mettre en lien le milieu de l'entreprise et le milieu sportif. Et donc vraiment de mettre en lien les deux milieux qui ne sont pas forcément en contact les uns avec les autres.
Alors on va parler des Pays de la Loire, on pourrait extrapoler à la France, mais en Pays de la Loire, c'est combien de licenciés dans la Ligue, à la Ligue ?
Alors on va être sur 300 licenciés à l'année à peu près. Et après, on va être sur des licences, ce qu'on appelle événementielles. Donc là, c'est journalier, ça dépend, c'est un peu plus pour des événements corporatifs. Et donc là, on va être plus sur plusieurs milliers selon les années.
Mmh. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus tout à l'heure comment fonctionne cette ligue, comment une entreprise arrive à fédérer ses collaborateurs autour de cette ligue et de prendre des licences. Dominique Maguère, pourquoi le MEDEF 44 s'intéresse-t-elle à cette question du sport dans l'entreprise ? Et avant que vous ne me répondiez, est-ce que tous les MEDEF de France s'intéressent à cette question du sport dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes quelque part un peu innovant, sachant que nos voisins, les Vendéens, en ont une aussi.
Oui, en fait, il existe une commission au niveau national et après, en région, il doit y avoir un peu moins d'une dizaine de groupes de travail qui existent. Et il y a une chance, il y en a deux dans les Pays de la Loire, en Vendée et en Loire-Atlantique.
Voilà. Alors pourquoi s'intéresser à cette question-là au MEDEF ? Quel est le levier qui intéresse les patrons et les dirigeants d'entreprise à poser la question du sport dans l'entreprise ?
Les leviers sont différents. Enfin, ça va dépendre de chaque entreprise. Mmh. On a un tissu d'adhérents en Loire-Atlantique d'à peu près 1700. 80% c'est des PME-PMI. Donc on va avoir des petites entreprises qui vont être intéressées par le sport, mais on verra soit par de la pratique, soit par du sponsoring, du mécénat. Il y a différentes façons finalement
d'interagir et de faire rentrer le sport dans l'entreprise.
Exactement, exactement. Et puis après, on a une 20% d'entreprises qui sont beaucoup plus grosses, qui elles ont déjà des habitudes en fait. Donc l'idée en Loire-Atlantique, c'est d'intéresser les petites et moyennes entreprises au sport et à ce que ça peut apporter dans un sens, mais comme dans l'autre.
Mmh. Claire Guillaumin, la Ligue des Pays de la Loire, vous disiez donc aux alentours de 300 licenciés. Comment est-ce que c'est l'entreprise qui vient vers la Ligue ? C'est la Ligue qui va vers l'entreprise ? Comment ça se passe ce premier contact entre le sport et l'entreprise ?
Alors, il va y avoir les deux possibilités. Soit effectivement, c'est une entreprise qui va plus être justement dans une politique RSE, QVCT, qui va chercher à...
QVCT, alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous les acronymes, qu'est-ce que c'est que la QVCT ?
C'est la qualité de vie et conditions de travail. Voilà, donc ça permet aussi de diminuer les turnovers, etc., de diminuer aussi cette sensation de stress, etc. Mmh. Donc là, ça va être plutôt des entreprises qui sont soucieuses justement de tout ça, avec également un autre acronyme, donc les CSE, pour celles qui en ont, donc les comités sociaux...
Comités socio-économiques.
Exactement. Voilà, et sinon, on va avoir effectivement des individus qui vont venir vers nous parce que c'est des salariés qui ont complètement arrêté le sport en fait et cherchent à le réintégrer dans leur quotidien, mais effectivement avec les problématiques de travail, etc., ils entendent parler un peu partout de sédentarité, etc., ils cherchent à avoir vraiment un impact sur leur santé, et donc là dans ce cas-là ils viennent nous voir et on va essayer soit de leur proposer à titre individuel, donc là avec de l'inter-entreprise, on va essayer de mutualiser, etc. Et sinon, donc là avec les entreprises, si c'est elles qui viennent nous démarcher dans un premier temps, ben là forcément On va plutôt être en interne.
Alors comment on va aller chercher ces entreprises et quels sont les bienfaits du sport en entreprise, au-delà peut-être simplement de passer juste un bon moment entre collègues?
Alors déjà, il va y avoir tout ce qui va être cohésion, forcément. Ça va être aussi un support pour justement pouvoir partager et discuter aussi avec ses collègues différemment. Parce qu'effectivement, on a quand même tous cette connaissance de la fameuse pause café où en fait, c'est pas vraiment une pause. On passe vraiment juste... on continue de parler de travail, juste pas devant son ordinateur en fait. Et de la même manière qu'on va passer d'un siège à un autre. Donc ce qui continue encore à être dans la sédentarité. Donc là, par exemple, avec des pauses actives ou justement des simples activités, on va pouvoir mettre un petit peu de mouvement juste.
Et qui porte ça dans l'entreprise? Alors, Dominique nous disait à l'instant qu'il y avait beaucoup, dans les Pays de la Loire, il y a beaucoup de PME, de PMI, donc souvent portées par le dirigeant. Peu de ces entreprises, ou en tout cas une minorité, ont des services RH. Mais qui porte cette attention? Souvent le dirigeant, les services des ressources humaines, les CSE qui peuvent mobiliser l'entreprise. D'où ça part?
Alors en général, ça part d'un salarié qui est déjà sensibilisé à l'activité physique. Et donc après, effectivement, soit ça va être principalement donc, ce qu'on appelle des décideurs, donc soit CSE, soit dirigeant, soit RH. Mais voilà, ça va être vraiment sur ces trois pôles-là. Et à chaque fois avec cette sensibilité justement de personnes déjà dans le milieu sportif.
Dominique Maguère, le sport dans l'entreprise, on le voit et on le voit de plus en plus d'ailleurs. J'ai des amis dirigeants qui ont commencé à mettre des gros ballons pour le positionnement du dos et être toujours un peu en mouvement. J'ai des amis aussi qui ont mis des tapis roulants, alors pas pour faire la réunion, mais simplement se dire, tiens, en marchant, la marche permet une meilleure acuité créative. Alors, c'est pas dans toutes les entreprises, mais c'est ça aussi l'intérêt de faire rentrer le sport dans l'entreprise, Dominique?
Ce sont les premières actions qui peuvent être mises en place, qui coûtent pas trop cher, on va dire, et qui ne demandent pas d'aide extérieure. Aujourd'hui, il y a des événements qui arrivent et qui amènent les entreprises, notamment sur la partie de courir un marathon ou un semi-marathon. Les entreprises vont challenger leurs salariés pour les amener à faire une course et du coup vont demander de l'aide extérieure d'un coach pour les accompagner, pour faire une préparation. Donc là, on travaille sur la cohésion, on travaille sur la performance, on travaille sur être ensemble, se mettre en mouvement et finalement, comme disait Claire, on sort un peu de la sédentarité et on profite d'actions, d'événements qui arrivent pour promouvoir le sport et essayer de faire rentrer le sport dans l'entreprise par une activité que l'on va faire à l'extérieur.
Est-ce que c'est facile de faire rentrer le sport dans l'entreprise, Dominique, Claire?
Par expérience, je vois que les dirigeants qui s'intéressent au sport ou qui pratiquent ont une facilité finalement à pouvoir faire rentrer le sport et à utiliser le sport comme un moyen de travailler son bien-être, mais aussi de travailler sa performance physique. Et on sait que le bien-être plus la performance physique va amener peut-être une meilleure performance sur son lieu de travail et sur son poste.
Sur son poste et sur son lieu de travail. On a mesuré un petit peu tout ça, cet impact du sport. Vous disiez que ça va peut-être améliorer aujourd'hui. On a quelques chiffres qui existent, Claire, Dominique? Claire, peut-être?
Alors oui, effectivement, on a des chiffres qui existent. Globalement, selon qui les fait et sur quel échantillon, ils vont toujours varier un petit peu. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, à chaque fois, ils sont positifs. Et donc, sur une fourchette entre 9 et 12%.
Est-ce que je parlais de l'Euro, je parlais de la Coupe du Monde de rugby, je parlais des JO qui arrivent. Est-ce qu'on peut se dire que cette année, il y a un peu plus de licenciés, que le sport est plus rentré dans l'entreprise? Et je m'arrête bien évidemment aux applications de pronostics sur les matchs qui font florès. Est-ce que le sport est, vous avez eu ce sentiment que ça a été plus facile cette année que d'autres, Claire?
Alors pas forcément plus facile, mais en tout cas effectivement plus de demandes. Et donc après, voilà, ça reste forcément sur le long terme, puisqu'il faut toujours mettre en place, etc. Et donc, ça reste le milieu de l'entreprise. Il y a quand même beaucoup de décideurs. Et voilà. Mais effectivement, il y a vraiment beaucoup plus de demandes cette année. On le ressent.
On peut utiliser l'événement comme un fédérateur et donc mettre en place des retransmissions de matchs. Alors, on a beaucoup de choses sur les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe. Voilà, il y a des événements qui sont fédérateurs, qui vont mettre en place le fait de mettre des concours de pronostics en interne. Donc tout ça fait un petit peu connaître le sport et faire rentrer le sport. Mais c'est pas pour ça qu'on va les pratiquer. Mais au moins, il y a le sport qui rentre dans l'entreprise par ce domaine-là.
Et est-ce que justement, on a aussi des éléments, vous l'évoquiez Dominique, mais est-ce qu'aussi on a des éléments sur l'impact sur la créativité, par exemple, sur est-ce que le fait de faire rentrer le sport dans l'entreprise permet réellement de faire, de transformer peut-être une entreprise, excusez-moi l'expression, un peu plan-plan, en une entreprise un peu plus innovante?
En fait, le bien-être physique et mental va forcément permettre une meilleure créativité. Mmh. La sédentarité aujourd'hui, notamment sur la concentration, on sait que quelque part, il faut faire des pauses tous les 30 ou 45 minutes pour être capable de se reconcentrer, de vider un peu sa charge mentale pour pouvoir repartir. Donc en fait, ça fait partie de ce que l'on appelle l'entraînement, qu'on l'utilise beaucoup dans le monde du sport. Et en fait, le monde du sport aujourd'hui, c'est 90% d'entraînement pour 10% de compétition. L'entreprise, c'est 90% de compétition pour 10% d'entraînement. Donc en fait, en entreprise, on ne s'entraîne pas pour être performant. On est directement dans la compétition. Donc en fait, on va dire, plus on fait de la compétition, plus meilleur on va être. Mais on génère du stress, on génère beaucoup d'échecs, on génère beaucoup de choses, et finalement, on n'a pas beaucoup de temps à côté pour essayer de s'entraîner, de performer. Ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre le sport et l'entreprise. Et c'est ce que, je pense, l'entreprise devrait commencer à intégrer dans le fait de dire, il va falloir qu'on s'entraîne pour que finalement, on soit meilleur. Moi, je parle plutôt du bien-être physique et mental, qui va forcément engendrer la performance.
Alors justement, quels sont on voit bien que le sport, et c'est peut-être la première chose qu'on voit souvent quand on parle du sport en entreprise, on a plutôt tendance à avoir comme image la notion d'entraînement, ce que vous disiez à l'instant, plutôt que la notion de club, de transformation peut-être des parkings, comme je le disais en introduction, la transformation des parkings en terrain de volley ou en terrain de basket. Est-ce que selon vous, ce rapprochement entre les valeurs du sport, les valeurs de l'entreprise, de l'entraînement et de la compétition est différent suivant qu'on est un dirigeant ou un collaborateur?
Oui, complètement.
Alors allez-y Claire. J'attendais une réponse de Dominique et je vois Claire se précipiter sur le micro.
Non, je lui ai tendu la perche.
Oui,
alors Claire, dites-nous tout par rapport à la question que je viens de poser.
Oui, donc effectivement, on peut voir vraiment des différences aussi selon les tempéraments, en fait. Effectivement, mais c'est ça qui est très intéressant aussi pour les managers et autres. C'est vraiment par le sport, on va pouvoir voir vraiment les savoir-être de ces salariés. Et par le sport et sur le terrain, et comment ils vont se
donc
comporter.
Ils sont toujours observés, en fait.
C'est aussi l'inconvénient, et c'est là aussi où c'est le petit piège du sport. Il ne faut pas non plus l'utiliser vraiment pour épier ses salariés, ses collaborateurs, parce qu'effectivement, là, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas du tout. Et c'est ce qui va faire que les séances vont être désertées.
Dominique,
il y a des exemples là, qui sont mis en place un petit peu partout à travers la France, à travers des job dating, mais qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire, il y a une activité physique qui est faite avec des demandeurs d'emploi et l'entreprise est là avec des RH, on ne sait pas. Et personne ne se connaît, en fait. Donc, les gens vont se confronter dans une activité sportive. Et ensuite, les masques vont tomber et on va être capable de dire « Ah ben moi, je suis RH et du coup, je viens là pour essayer de t'embaucher. » Sauf qu'on aura vu les personnes pratiquer un sport sans savoir qu'elles étaient là finalement pour une promesse d'embauche ou pour pouvoir faire un entretien. Donc, on voit les gens sous une autre forme aussi. On utilise le sport pour ça.
C'est ça, ce que faisaient certains grands groupes américains pour recruter. C'est-à-dire, ils mettaient de futurs collaborateurs dans une même pièce, ils donnaient un cas, ils regardaient un petit peu le comportement des uns et des autres. C'était pas forcément toujours le plus brillant et le plus diplômé d'ailleurs qui était embauché, mais il avait un comportement d'un lead naturel. Et est-ce que ça... Alors, vous parliez aussi d'entraînement. Est-ce que un leader qui n'est pas leader peut devenir leader grâce à un entraînement en s'appuyant sur les valeurs du sport, Dominique?
Oui. Le leader ou leadership, c'est une compétence qu'on travaille, en fait. Ouais. Donc, il faut être capable de s'entraîner. Le leader doit savoir donner confiance. Donc, déjà, il faut qu'il ait confiance en lui. Donc, on va travailler sur une thématique qui est la confiance. Et puis après, on va devoir prendre des décisions. Un manager peut ne pas être un leader et un leader peut ne pas être un manager. D'accord? C'est pas forcément associé. Ce qu'on peut dire, c'est que le manager a du pouvoir et que quelque part, il a un besoin de briller. Et le leader a plutôt une autorité et lui, il va plutôt rayonner. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais le leadership, c'est une compétence que l'on doit travailler pour finalement devenir un leader.
Et alors, comment on le rapproche du monde sportif?
On revient sur ce qu'on disait, c'est s'entraîner et être capable de développer cette compétence. Dans le monde sportif, il y a des entraîneurs, ils s'entraînent, ils passent des diplômes pour devenir entraîneur. Voilà. Donc ça veut bien dire entraîner les autres.
Courroie d'entraînement. C'est pas simplement du training pour soi, mais c'est vraiment une courroie d'entraînement pour entraîner toute une équipe. Claire, comment est-ce que vous agissez, vous, concrètement, sur les entreprises? Quelles sont les missions, les actions que vous mettez en place en tant que Ligue des Pays de la Loire du sport en entreprise?
Alors effectivement, nous, on va avoir trois axes. Donc principalement, donc là, on vient juste d'en parler avec le sport insertion. Donc justement, c'est œuvrer sur donc mettre en lien via le sport, où là vraiment j'insiste dessus, tout le monde pratique, aussi bien les recruteurs que les recrutés. C'est là la clé. Ensuite, on va avoir tout le côté activité physique, donc là qui va se découper encore une fois en trois parties, avec favoriser le mouvement à l'activité physique et le sport, pour vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous amenez des programmes directement dans les entreprises pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là?
Alors effectivement, quand c'est en entreprise, c'est une entreprise qui a les épaules, donc aussi bien en RH que financière, que en tant qu'infrastructure. Là, on va effectivement construire avec eux un programme, mais on en a déjà des préfets qu'on va venir adapter à l'entreprise. Mais effectivement, donc là, Dominique le disait au tout début, en Pays de la Loire notamment et en Loire-Atlantique principalement, c'est beaucoup de PME et TPE. Et dans ce cas-là, c'est pas possible en fait.
C'est pas possible.
Voilà. Donc dans ce cas-là,
pas possible. Pourquoi? Parce que pas assez de monde, parce que pas assez de budget, parce que pour quelle raison c'est pas possible?
Les trois que vous venez de citer.
Les trois que je viens de citer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les regroupe éventuellement pour arriver à créer de la synergie.
Exactement. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on fait au niveau de la Ligue des Pays de la Loire. Donc je tiens aussi à préciser que nous sommes une association, donc une association. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte comme avantages et inconvénients. Mais donc là, on va vraiment travailler sur la mutualisation, si bien des infrastructures que des coachs. Et donc là, par exemple, l'exemple le plus concret qu'on va avoir, ça va être sur Pontchâteau. Et donc là, on travaille en lien avec la communauté de communes qui nous met à disposition ces gymnases, qui sont inoccupés sur le temps du midi. Donc eux, ils ont une plus-value aussi. Nous, les entreprises qui n'ont pas forcément de salle à mettre à disposition, justement, là, ils en ont une qui est dédiée à ça, donc avec forcément des douches, des vestiaires séparés. Et donc nous, on va pouvoir venir proposer. Donc là, actuellement, on est à 9 créneaux par semaine, très diversifiés. On est du yoga au pilates, en passant par la natation et au self-défense. Voilà. Et on est vraiment en lien aussi avec les acteurs privés. Donc on est en lien avec une salle privée et avec des associations locales sportives. Donc là, justement, on fait le lien avec le milieu sportif. Voilà.
Alors, allez-y, Dominique.
Ça a été initié par la commission sport du MEDEF en 2019, ce projet-là, et l'inauguration a eu lieu en 2021. Après, nous, on se retire du projet parce qu'on était juste là pour commencer à approfondir et voir ce qu'on était capable de faire pour mettre en lien les entreprises et le sport. Et ensuite, c'est la Fédération française de sport en entreprise et un privé, Harmonie Mutuelle notamment, qui a pris le relais pour animer ça pendant déjà depuis 3 ans.
Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'en 2018, les Olympiades de sport en entreprise avaient lieu à La Baule.
Alors, c'est pas exactement des Olympiades, donc c'était les Jeux mondiaux du sport d'entreprise, donc organisés par la Fédération mondiale du sport d'entreprise. Et donc, effectivement, c'était à La Baule.
C'est ça qui a un petit peu remis un petit peu le sport en entreprise au goût du jour. Souvent, quand il y a un événement dans un endroit, c'est un petit peu un levier pour se re-questionner sur la place d'un événement dans nos structures, dans nos organisations.
Oui, c'est la même chose qui se passe en club. Il suffit qu'il y ait un événement important pour que le nombre de licences redémarre ou aille à la hausse. Et donc, dans l'entreprise, il y a aussi un regain qui peut exister par rapport à un événement qui arrive. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs, notamment, si on va sur le sponsoring et le mécénat, l'entreprise va commencer à regarder un petit peu comment ils peuvent accompagner le monde sportif. Et donc, finalement, ça, on va beaucoup s'approcher des valeurs du sport et des valeurs qui sont les mêmes que dans l'entreprise. Donc, on va associer les valeurs de l'entreprise à des valeurs de certains sports. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va vers le sponsoring et le mécénat.
Alors, justement, vous en parliez, Claire, tout au début de notre échange sur la recherche, parfois, par certaines entreprises, de mettre un peu plus de RSE, et le sport pouvait y répondre. Alors, moi, c'est vrai que quand on pense RSE, on pense social, environnemental. J'ai un peu de mal à voir le sport là-dedans. En quoi il y a un lien, Dominique, entre la RSE et le sport en entreprise?
Dans la commission, là, on travaille un petit peu dans ce domaine-là, et on est sur des projets handisport, sur la démocratisation du sport féminin, on est sur des événements relatifs inclusifs qu'on va avoir dans des quartiers un peu difficiles de la ville. Là, on va être sur des actions caritatives, des job dating. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est des choses que l'on met en place avec l'entreprise, et on y associe le sport. Voilà.
Donc ça veut dire quoi? Pour être concret, ça veut dire que l'entreprise va accompagner des structures par le biais du sport, va par exemple aller sur son temps de pause ou sur un temps de congé.
Ou va financer,
voilà. S'occuper, par exemple. Ouais. Je recevais il y a quelques temps une association qui essaye d'avoir une ouverture, par exemple, de gymnase pour les personnes porteuses de handicap, parce qu'elles ne peuvent pas faire du sport comme tout le monde, avec tout le monde, et en général, il n'y a pas d'ouverture. Ça, c'est des actions RSE. C'est là où l'entreprise rejoint le sport dans la dynamique RSE.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la partie sociétale. Après, il peut y avoir des choses sur l'environnemental. On va être sur les économies, sur les transports. On va regarder un petit peu quels sports peuvent faire des attention aux transports, pas aller un peu partout en France. Donc, sauf qu'on a quelques petites problématiques un petit peu aujourd'hui. Mais c'est principalement la responsabilité sociétale et du coup la marque employeur aussi de l'autre côté qui sont aujourd'hui les leviers les plus importants utilisés par l'entreprise.
Parce qu'il y a aussi cette question de l'attractivité. On sait combien aujourd'hui, et particulièrement dans les Pays de la Loire, il est difficile de recruter. Le fait d'avoir une équipe... Alors, est-ce qu'il y a des équipes qui s'affrontent? Parce que qui dit ligue dit affronte. Est-ce que tous les Pays de la Loire, par exemple, Claire, est-ce que des entreprises s'affrontent dans un championnat des Pays de la Loire, par exemple en football ou en tennis ou en basket?
Alors, à l'échelle de régionale, non. Voilà, mais par contre, effectivement, à l'échelle de département, oui. Donc, par exemple, dans le 49, on a vraiment des exemples assez impressionnants en soccer meeting, par exemple.
En soccer?
Soccer meeting.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est du foot à 5,
d'accord.
Si je ne me trompe pas. Voilà. Mais donc, effectivement, c'est du foot à 5 sur terrain synthétique, il me semble. Et donc, voilà.
Et donc là, il y a des vraies compétitions entre les entreprises, et le trophée passe d'une entreprise à l'autre, c'est ça?
Exactement. Mmh. Et donc, il y a la même chose qui se passe aussi au niveau national en rugby, par exemple, qui est très développé en Île-de-France. Voilà. Donc on ne l'a pas encore en Pays de la Loire, mais bon, après, le rugby n'est pas forcément... voilà. Et sinon, ça va être plus sur des événements ponctuels. Donc, au Pont-de-Cé, nous avons notamment le marathon relais inter-entreprise qui commence à être bien reconnu maintenant, qui a eu lieu là cette année, le 31 mai. Et donc, effectivement, le podium se dispute chaque année entre les mêmes entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a une émulation ces 10 dernières années pour ce marathon. Et c'est assez intéressant aussi à voir. Et effectivement, on voit une belle dynamique dans les entreprises, avec effectivement même différentes équipes et des temps complètement différents, et vraiment de tout. Et une belle solidarité qui se met en place.
Après, il y a les championnats corporatifs, pardon, au football, qui sont organisés par la Ligue ou le district. Et là, vous avez des équipes d'entreprises qui viennent se confronter sur un championnat, sur la saison. Mais c'est surtout sur des sports majeurs. Il n'y a pas non plus 36 sports.
Voilà, exactement. Nous, on vient plus sur les disciplines qui sont annexes ou qui tentent justement à se développer, par exemple sur le soft volley. Mais après, effectivement, les grandes disciplines n'ont pas forcément besoin d'une
ligue de sport en entreprise pour exister, c'est ça? Ou d'accompagnement?
Voilà, exactement. Bah, en fait, ils vont effectivement être autonomes sur ces disciplines-là. Et donc, nous, on n'a pas vocation à aller de ce côté-là.
Faut pas se fâcher avec les gens, c'est pas bien. Dominique, la commission, elle travaille sur quoi aujourd'hui? Votre groupe de travail du MEDEF 44, sport et entreprise, c'est quoi les grands dossiers sur lesquels vous aimeriez peut-être... simplement faire du plaidoyer vis-à-vis aussi des acteurs publics. On sait bien que si on veut faire avancer les choses de manière un peu systémique, il faut aussi faire un peu de plaidoyer. C'est quoi les grands dossiers sur lesquels vous êtes aujourd'hui ?
On a commencé un travail l'année dernière sur l'intégration du sport dans l'entreprise. Et donc on est parti du sport de haut niveau et puis l'entreprise, la formation professionnelle. On avait différents sujets qui ont été abordés et qui ont donné lieu à une intervention au CREPS à Nantes sur une demi-journée où on faisait rencontrer des salariés, des sportifs, donc ils se confrontaient sur une discipline.
Alors on dit le CREPS, c'est le centre de formation de haut niveau.
C'est le centre régional, ouais, du haut niveau. Et puis du coup, il en est découlé un travail un peu plus spécifique cette année sur le sponsoring et le mécénat. L'idée de la commission, c'est aux 1700 adhérents finalement du MEDEF qui sont présents en Loire-Atlantique, c'est de leur faire comprendre ce que c'est le sponsoring et le mécénat, comment ils peuvent intervenir, et que pour une petite somme d'argent, ils sont capables d'accompagner un sportif ou un club. Donc c'est un peu démystifier cette notion-là, qui est connue dans des grandes entreprises, mais qui n'est pas forcément connue des petites entreprises.
9% des entreprises seulement s'intéressent à la question du mécénat en France, pas dans les pays de la Loire, ce qui prouve qu'il y a encore une grande marge de manœuvre. Et en effet, on a trop relégué le mécénat dans les grandes fondations et dans les grandes entreprises. Mais en fait, même avec une personne, on peut faire du mécénat. J'ai quelques exemples. Ce sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission. Claire, c'est quoi vous, vos gros dossiers là en ce moment à la Ligue des Pays de la Loire ?
Alors, ça va être justement favoriser ces fameuses plateformes ou activités du midi. Parce qu'effectivement, il y a vraiment une demande et c'est assez intéressant pour les trois parties du coup. Donc,
300 licenciés, vous vous êtes donné un objectif d'augmenter un petit peu aussi le nombre d'adhérents à la Ligue ?
On est surtout sur un objectif de faciliter l'accès à l'activité physique en entreprise et du coup la rendre accessible au plus grand nombre, y compris aux toutes petites entreprises et y compris aux auto-entreprises. Voilà. C'est surtout ça l'objectif.
Merci beaucoup à tous les deux. Nous, on va retrouver Asma Zayan, que vous connaissez, puisqu'elle est aussi nantaise et dans les Pays de la Loire. Elle est venue développer à Nantes une association nationale qui s'appelle Sport dans la Ville. Un des éléments de la marque RSE et de la possibilité d'activer ces leviers RSE. On va voir tout de suite avec elle de quoi il retourne. Merci Dominique, merci Claire d'avoir été nos invités du
merci.
Dossier de l'écho. On continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, après avoir parlé du sport dans l'entreprise avec Dominique et Claire, eh bien, on va évoquer la place du sport dans la ville avec Asma Zayan. Bonjour Asma.
Bonjour Patrick.
Vous êtes directrice régionale pour l'Ouest de Sport dans la ville. Vous êtes basée à Nantes et on va évoquer avec vous cette association qui existe depuis déjà assez longtemps puisqu'elle est présente sur de nombreuses villes, à Lyon, à Lille et dans d'autres villes de France, Marseille je crois aussi.
Exactement.
Vous êtes présent dans toutes ces grandes métropoles qui ont besoin de renouer le contact entre la ville et le sport et plus particulièrement nos quartiers prioritaires. Quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit de sport dans la ville. Racontez-nous un peu l'histoire. C'est quoi les missions? C'est quoi l'origine, l'ADN de Sport dans la ville, Asma?
Alors, l'association a été créée en 1998 par Philippe Audou et Nicolas Sherman à Lyon. L'association est une association reconnue d'intérêt général et nous sommes l'une des principales associations d'insertion par le sport. Donc,
d'accord.
Notre objectif, c'est de donner aux jeunes des quartiers l'envie, la confiance et les moyens pour réussir.
Alors, comment est née justement cette association? Parce que là, on voit bien, vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser au quartier, à vouloir faire de l'insertion par le travail ou par le sport ou par le jeu ou par le macramé. J'exagère un petit peu, mais on voit beaucoup d'associations s'intéresser aux quartiers prioritaires de la ville parce qu'il y a des vrais besoins dans ces quartiers. Mais comment est née l'idée pour les deux fondateurs d'aller apporter le sport qui, soit dit en passant, semble très présent dans les quartiers? On peut imaginer, ils jouent au foot, ils jouent au basket. Pourquoi apporter du sport?
Alors, l'idée, elle est venue d'une interview qu'a entendue Philippe Audou, donc
ouais.
Celle de Yannick Noah. Donc à l'époque où il souhaitait créer l'association Faites le Mur, donc qui était une association pour justement favoriser la pratique du tennis dans les quartiers. Donc Philippe s'est rapproché de Yannick Noah et donc en tant que bénévole, il a créé un premier terrain de tennis à Vaux-en-Velin qu'il a animé. La problématique, c'est que c'est vrai que sur un terrain de tennis, il n'y a pas la possibilité d'amener beaucoup de jeunes sur le terrain et donc d'avoir, on va dire, un impact grandissant. Et donc, du coup, lui qui était passionné de sport, qui souhaitait agir pour l'égalité des chances. Il a décidé de créer Sport dans la ville. Et la différence avec le fait qu'il y a déjà effectivement des équipements et des jeunes qui jouent dans les quartiers, c'était vraiment d'amener une pédagogie en mettant en place des animations sportives encadrées par des éducateurs sportifs sur un terrain, avec la logique d'avoir du sport plaisir, mais avec transmission de valeurs. Donc c'est vraiment ça la base, c'était de se dire, effectivement, il y a une pratique sportive qui est faite, mais peu encadrée, et aussi comment on alliait justement ce côté sport avec la transmission de valeurs qui pouvait être ensuite déclinée sur la partie employabilité des jeunes. Parce que la vraie problématique aussi dans les quartiers, évidemment, c'est l'employabilité, le taux de chômage et le peu de perspectives qu'ont ces jeunes dans l'avenir. Donc c'est vraiment l'objectif, c'était un peu de se dire, on va amener du sport encadré.
Et casser aussi le fameux déterminisme social,
hein,
c'est-à-dire se dire dans un quartier, bah, parce que je viens du quartier, de toute manière je ne trouverai pas de job, de toute manière ça sert à quoi que je fasse des études, parce que de toute manière j'ai la peau ceci, j'ai la langue comme ça, et finalement ma vie se résume à mon quartier. Et vous, l'idée c'est aussi de pouvoir leur ouvrir des horizons pour sortir de ce quartier et montrer que leurs talents sont exploitables ailleurs.
Exactement, c'est d'ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment ça le mantra de Sport dans la ville, c'est de se dire justement rien n'est impossible. Alors, à partir du moment où on se donne les moyens.
Alors, on parlera un peu de Nantes parce que vous êtes en plein chantier de développement, Asma. Mais globalement, ça se passe comment ? Je suis à Lille, je suis à Lyon, je suis dans un quartier. Il y a une opération sport dans la ville. Qu'est-ce qui va se passer pour mon jeune ? Je suis une maman, j'ai des enfants. Et je me dis, tiens, c'est une super idée. Je vais les inscrire à sport dans la ville.
Oui. Alors, pour revenir aussi, voilà, sport dans la ville, nous, vraiment, tout commence au sein du quartier. C'était vraiment notre objectif d'être au cœur du quartier.
Au pied de l'immeuble,
au pied de l'immeuble, exactement. C'est vraiment l'objectif pour être au plus proche des familles et des jeunes et qu'il y a également une réappropriation du lieu qu'on va construire par les habitants. Parce que l'objectif, c'est de construire un terrain sportif, donc soit foot, basket, soit un double plateau de foot et basket. Et donc l'objectif, c'est nous, on fait du aller vers, donc on va à la rencontre des familles et à la rencontre des jeunes avant l'inauguration du terrain pour déjà nous faire connaître auprès des acteurs du quartier, parce que c'est important aussi.
Donc ça veut dire que quand vous arrivez, normalement, il n'y a aucune infrastructure. Vous ciblez des quartiers où il n'y a aucune infrastructure déjà existante.
Exactement. En fait, le but, c'est de travailler avec la ville et la métropole. Généralement, on fait une tournée de quartier, voir où est-ce qu'on pourrait s'implanter au mieux. Et ensuite, on regarde un foncier existant où il n'y a pas actuellement d'équipement sportif. Et on construit un terrain de foot ou un terrain de basket. Donc ensuite, une fois qu'on a construit ce terrain, l'objectif, c'est, comme je vous disais, d'aller à la rencontre des familles pour qu'on puisse inscrire le jeune, parce que c'est important que la famille soit impliquée. C'est une des forces de sport dans la ville aussi. Et une fois qu'il est inscrit, il participe à des activités sportives le mercredi après-midi et le samedi toute la journée, qui sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d'État. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc,
pose la crédibilité,
exactement,
en fait, du projet.
Et aussi, il y a un encadrement, il y a des mineurs, parce que nous, on accompagne des jeunes de 6 à 20 ans sur le terrain. Et donc, du coup, c'est important pour nous d'avoir des personnes qui connaissent l'encadrement de ce type d'activité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas du sport compétition. Donc, c'est vraiment de créer des ateliers pendant l'activité. Et ensuite, il y a forcément un match parce que les jeunes attendent quand même petit peu de
compétition, d'échange.
Voilà,
il faut pouvoir se challenger. Ce serait pas rigolo s'il n'y avait que de l'entraînement, bien évidemment. Vous disiez, alors il y a deux points qui m'intéressent. La première, vous allez à la famille, c'est-à-dire que grosso modo, vous faites du porte-à-porte pour aller présenter sport dans la ville. C'est difficile de convaincre dans des quartiers où finalement, parfois, et c'est peut-être des a priori de ma part, il peut y avoir de la suspicion sur les gens qui viennent frapper aux portes, qui viennent présenter une activité, sur peut-être une peur qui peut exister au sein de ces quartiers, ou c'est plutôt facile à l'inverse ?
Alors, chaque quartier a ses différences. Donc c'est très dépendant de l'atmosphère aussi du quartier. Dans l'ensemble, il y a quand même un très bon accueil de sport dans la ville, parce que une fois qu'on a créé ce lien, et que justement on va à leur rencontre, parce que c'est ça aussi qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'il y a un isolement aujourd'hui un peu des quartiers, et on va à leur rencontre, on prend le temps de s'intéresser à qui ils sont, du coup ils se disent ok, on va faire confiance aussi, et nous derrière l'objectif c'est d'avoir des résultats assez rapidement pour aussi prouver qu'on a un impact, qu'on va accompagner ces jeunes, parce qu'il y a une vraie désillusion actuellement dans les quartiers du fait qu'ils se sentent un peu abandonnés, on le voit actuellement.
Et on arrive à les fidéliser dans cette activité là où on sait que la jeunesse, alors là c'est pas un a priori, est très zappeuse. Deux heures par-ci, trois heures par-là, si j'ai le temps j'y vais, si j'ai envie, j'ai pas envie. Et ça c'est pour tous les jeunes, c'est pas uniquement les quartiers.
C'est vraiment la force aussi, encore une fois, de Sport dans la ville, d'arriver par le sport. Parce qu'en fait c'est là qu'on les accroche le plus, et qu'après on arrive à décliner notre programme qui s'appelle Job dans la ville et qui permet d'accompagner les jeunes plutôt cette fois sur l'orientation, la formation et l'emploi. Donc c'est vraiment grâce à cette accroche qu'on arrive à les fidéliser sur plusieurs années. Donc en moyenne, les jeunes restent chez nous 3 ans et puis repartent, ils reviennent. Alors par contre, voilà, il y a du va-et-vient à des moments, ce qui est logique. Hein. Et ils reviennent aussi quand ils ont un besoin. Évidemment, par exemple, ils sont venus avec nous de 6 à 10 ans et puis après ils vont un peu stopper, puis ils vont revenir parce qu'il y a le premier stage de 3e. Voilà, et on les réaccroche au sport.
Alors, vous parliez aussi de l'impact, hein. Alors évidemment, on n'a pas calculé l'impact sur Nantes puisque vous êtes en plein développement, mais globalement aujourd'hui, ça a touché combien de personnes? Est-ce qu'on sait quel est l'impact sur le territoire? Est-ce que ça a été créateur d'emplois? Est-ce que ça a permis à des jeunes de reprendre confiance en eux et peut-être d'aller faire des études là où ils ne seraient peut-être pas allés de manière naturelle?
Oui, alors pour revenir sur des chiffres, donc nous aujourd'hui on est présent sur une 30aine de villes, on a 68 terrains en France et donc on accompagne environ 12 000 jeunes actuellement sur le territoire français, avec 10 000 jeunes qui sont présents chaque mercredi et chaque samedi sur nos terrains et à peu près 2 800 jeunes qui sont plutôt sur notre programme Job dans la ville, donc plutôt sur l'orientation, la formation et l'emploi. On a, en termes d'impact, on mesure chaque année 90% des jeunes de sport dans la ville qui sont actuellement en emploi ou en formation qu'on a accompagnés, versus 65% dans les quartiers.
Ouais, est-ce que vous faites des matchs avec les vétérans, ceux qui sont passés à sport dans la ville il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans?
Exactement.
Et vous les faites se rencontrer aussi pour dire, bah, vous voyez, ça fonctionne notre truc.
On travaille de plus en plus sur les alumni, comme on appelle, un peu comme dans les écoles de commerce. Voilà, c'est un peu le terme qu'on utilise aussi pour justement faire en sorte qu'il y ait des rôles modèles aussi.
Bien
parce
sûr.
Que c'est vrai que malheureusement, les quartiers ont besoin aussi d'avoir des exemples sur lesquels transposer un peu leur vie. Parce que malheureusement, si une personne hors du quartier annonce sa réussite, les jeunes vont se dire « oui, mais tu n'as pas subi, entre guillemets, nos freins périphériques, etc. »
C'est ça.
Et on a aussi un programme sur l'entrepreneuriat qui s'appelle « Entrepreneurs dans la ville ». Et on essaye aussi de faire connecter ces entrepreneurs de quartier avec les jeunes. Donc, on fait de plus en plus d'actions.
On a refait la connexion avec le sport dans l'entreprise.
Exactement.
La démarche RSE. Mais je ne vous avais pas invité uniquement pour parler de sport dans la ville. J'avais bien compris qu'il y avait aussi un lien. Nantes est en train de se développer. Vous avez un terrain qui va être inauguré en octobre prochain, c'est ça à peu près?
Fin septembre, oui.
Fin septembre, début octobre, donc pour les actions de sport dans la ville. Vous avez le micro, vous avez un besoin, lequel aujourd'hui? C'est le moment de faire passer un message.
Le principal besoin, c'est comme je vous disais, on a besoin de résultats assez vite pour aussi convaincre et faire en sorte qu'on accompagne le maximum de jeunes. Donc le but, c'est vraiment que les entreprises du territoire s'engagent à nos côtés pour évidemment accompagner ces jeunes, faire des ateliers avec ces jeunes, du parrainage, mais aussi participer à notre job dating, café de l'alternance. Et puis évidemment, on a aussi besoin de financement, comme toute association. Et donc ça nous permettra de développer d'autres actions dans d'autres quartiers prioritaires de Nantes et puis après plus largement en région Pays de la Loire.
Merci beaucoup Asma d'avoir été notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr. Dès le vendredi à 17h, l'émission est disponible et partout ailleurs sur les plateformes de podcast dédiées. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt. Au revoir. That it